Vous écoutez France Culture.
Mais regardez-vous, le monde nous regarde, oui, maintenant, oui, 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 oui. Laissez-moi vous dire une chose.
Le rendez-vous Palais de Tokyo.
En partenariat avec Anou Paris.
Mais le terrible, dans les débuts, c'est de rencontrer quelqu'un tout nu, que l'on connaît.
Vous êtes dur.
Il va le dire.
Non, fini les identités.
Sex et Rock, ça promet ce soir dans le rendez-vous en direct et en public au Palais de Tokyo à Paris. Il sera question de drôle de dame, de Freddie Mercury, d'ingres, d'étoiles, de saxophones et même de négligés de soie lila. Avec Philippe Catherine qui signe Magnum, 10e album et un film pour un univers aux couleurs hawaïennes sur des rythmes italo-disco, Mathieu Conquet.
Oui, Magnum, un disque qui pourrait ressembler à un retour à la fiction après l'autoportrait. On y croise quand même des figures, Dean Martin, des camionneuses, Catherine de Médicis. Catherine, lui, ce soir, il sera avec ses musiciens pour deux titres avant la sortie de l'album. Ce sera lundi.
La chronique de Thomas Clerc ce soir, ce sera Dada Art pour enfants. Et puis nous recevrons Jean-Luc Vernat, artiste polydisciplinaire à l'occasion de la sortie de sa somptueuse monographie qui aurait pu s'intituler comme toutes ses expositions. Vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé ? Non. Manu Farine.
Retour donc sur le parcours d'un artiste d'un genre plastique et étoilé, très étoilé même, danseur, actrice, chanteur, ou comment s'offrir au monde par le corps et le dessin.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Xavier Martinet qui rend hommage ce soir à Régine Deforge. Et puis on retrouvera bien sûr les brèves de Benoît Lagane.
Je me sens féministe. C'est les féministes qui ne veulent pas me reconnaître. Quand j'allais aux Beaux-Arts, là où elles se réunissaient en 68, je me faisais traiter de collabo parce que je publiais des livres qui faisaient bander les hommes et que c'était au détriment des femmes qui étaient toujours des femmes objets. Moi, j'ai été la scandaleuse, j'ai été la pornographe, j'ai été la papesse de l'érotisme. On n'aurait jamais dit ça d'un mec. Et ça, moi, je ne pouvais pas l'accepter. Hein, j'étais un individu qui publiait des livres érotiques, certes, mais j'aurais pu publier des ouvrages religieux, une anthologie de la poésie, n'importe quoi.
C'est la voix de Régine Deforge en octobre dernier. C'était dans la Grande Table sur France Culture. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Régine Deforge est donc décédée hier à 78 ans, auteure de la série à succès La Bicyclette Bleue, une papesse de l'érotisme. Elle a aussi été la première femme éditeur en France et notamment d'Hervé Guibert.
Et oui, vous l'avez dit, il y a plusieurs faces à l'activité littéraire de Régine Deforge. D'abord les 10 millions d'exemplaires des 10 volumes de La Bicyclette Bleue et puis sa maison d'édition donc, qu'elle avait fondée en 1968, L'Or du Temps, qui publiait des essais ou des romans érotiques comme les 11 000 verges. Et puis il y avait aussi ses propres récits érotiques. Il faut dire qu'on était à l'époque en plein essor de la littérature érotique féminine. C'était les livres d'Emmanuel Arsan par exemple ou de Pauline Réage. Voilà, donc plusieurs vies littéraires et plusieurs vies tout court aussi. Les trois mariages de Régine Deforge, ses voyages et sa fréquentation des personnages influents, disons, de l'époque, assez divers d'ailleurs, l'abbé Pierre, Mitterrand ou Fidel Castro. Sa vie est un roman, me disait tout à l'heure au téléphone son ami, l'écrivain également à succès, Madeleine Chapsal. En fait, c'est elle qui l'avait fait élire au jury du prix Femina, et alors qu'elle en était elle-même exclue en 2006, eh bien, Régine Deforge lui avait aussitôt apporté son soutien en démissionnant du jury. Écoutez Madeleine Chapsal.
À l'unanimité, ces dames ont voté mon expulsion, et Régine n'a pas voté, elle s'est levée. D'un seul coup, elle a dit « Madeleine, viens, je ne supporte pas de rester ici dans un jury littéraire qui fait de la censure ». Et puis, elle a été elle aussi poursuivie. On ne pouvait pas publier Sade, on ne pouvait pas publier Mandiargue, ni Bataille. Enfin, vous voyez, tout enfant, elle devait avoir 13 ou 14 ans, elle avait parlé d'une espèce d'amour qu'elle avait pour son institutrice. Mais ce que je peux vous dire, c'est que elle avait la passion du livre, encore plus que de l'écriture, la passion du livre. Elle a été relieuse, elle achetait des livres anciens à chaque fois qu'elle pouvait, elle avait une bibliothèque remarquable. Et c'est ça qui l'a tirée de son milieu de Montmorillon où elle avait été tellement humiliée. La vie de Régine, c'est un roman fondé sur un caractère, comment vous dire. Il y avait chez elle beaucoup de générosité, de gentillesse. Mais en même temps, elle voulait la liberté dans tous les domaines.
Régine Deforge avait publié son autobiographie l'année dernière, près de 40 ans de vie littéraire pour une quarantaine d'ouvrages.
Oui, et là, c'était des textes qui n'étaient pas seulement érotiques. Et puis, c'est aussi, et peut-être surtout, en tant qu'éditrice, en effet, que Régine Deforge a acquis une réputation sulfureuse, d'abord avec l'éditeur Jean-Jacques Pauvert. Et puis là, c'est le début d'une longue histoire de procès pour censure, en publiant Sade ou Apollinaire, par exemple, des procès qui ont fini par ruiner sa propre maison d'édition. Et puis, Régine Régine de Forges pouvait aussi déplaire aux féministes pour ses romances, disons, et ses prises de position, pas forcément militantes, donc déplaire aux féministes, mais pas en tout cas à Laure Adler, notre consoeur productrice chez France Culture, qui l'avait rencontrée quand elle-même était encore libraire.
Moi, je n'oublierai jamais que le premier texte que j'ai lu de Hervé Guibert, qui s'intitulait « La mort propagande », qui était un texte déjà d'une radicalité bouleversant. C'est elle qui avait découvert Hervé Guibert et c'est elle qui l'a publié dans sa maison d'édition. D'autre part, c'est quelqu'un aussi de très sensuel, hein, Régine, à la fois dans la beauté des livres qu'elle fabriquait quand elle était éditrice. C'était quelqu'un qui occupait tout le temps ses doigts. Elle était fascinante parce qu'elle savait très bien broder. D'ailleurs, elle a écrit un bouquin sur le point de croix, mais elle brodait absolument tout le temps. Donc c'était quelqu'un qui était en mouvement absolument en permanence.
Une femme en mouvement, donc Régine de Forges, mais aussi solidaire, ajoutait Laure Adler, et d'ailleurs pas sans humour, puisqu'en quittant le jury du prix Femina donc en 2006, en prenant Madeleine Chapsal par la main, elle lance un peu à la cantonade devant le jury et le public, « Viens Madeleine, on va déjeuner ailleurs ».
Merci Xavier Martinet. C'est le début du week-end pour vous, je vous le souhaite. Super, comme on dit quand on était jeune. Tout de suite, Benoît Lagan pour les brèves.
Et pour ouvrir ces brèves, on part à deux pas d'ici, au Palais de Chaillot à Paris, où se tient le Forum européen de la culture, organisé par le ministère de la Culture jusqu'à demain. Ce forum qui a mis à son programme la question des droits d'auteur, celle de la diversité culturelle ou encore du financement de la création, a eu droit à la visite surprise du chef de l'État aujourd'hui. Quelques heures à peine après avoir présidé le premier conseil des ministres de Manuel Valls, François Hollande est intervenu au Forum de Chaillot afin de démontrer, je le cite, qu'en France et en Europe, la culture n'est pas une dépense superflue.
Quelles ont été les principales sorties du président ?
Eh bien, sur le plan de l'économie, François Hollande, volontariste, a déclaré que la culture était une chance pour l'économie européenne, une source d'emploi et d'activité, un avantage comparatif par rapport à d'autres continents, un levier de développement pour notre pays et pour l'Europe. Le président de la République a souligné par ailleurs que la France se battait pour que les taux de TVA puissent être adaptés afin de faciliter l'accès aux produits culturels et considère, je le cite encore, que tous les produits culturels devraient être au même taux de TVA.
Et pendant ce temps-là, manifestaient les intermittents.
Oui, au moment où François Hollande intervenait dans une salle de la Cité de l'Architecture, plusieurs dizaines d'intermittents du spectacle et des travailleurs précaires manifestaient devant le palais de Chaillot pour demander le maintien de leur régime d'indemnisation. D'autre part, plusieurs directeurs de centres dramatiques et de centres chorégraphiques nationaux régionaux ont exprimé dans un communiqué publié aujourd'hui leur colère sur l'accord intervenu sur l'assurance chômage fin mars. Selon eux, cet accord fragilise encore davantage les plus précaires.
Et pour terminer la semaine, la petite histoire du soir.
Eh bien, ce soir, Laurent, une petite histoire de gazouillis entre une ex-ministre et un vieux personnage de jeu télé qui circule depuis 24 heures dans de très nombreux médias. C'est dire son importance. Ou comment, en quelques tweets, Cécile Duflot confirme son goût pour l'aventure. Je vous raconte. Tout commence il y a bien longtemps quand l'ex-leader d'Europe Écologie Les Verts démontrait à la France entière être une grande adepte des réseaux sociaux et en particulier du petit oiseau Twitter. Un peu plus tard, en 2011, sur un média beaucoup plus traditionnel, dans un portrait que lui consacrait le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, Cécile Duflot expliquait qu'elle partageait avec ses enfants une véritable passion pour une émission phare des étés de France 2. Mais voilà qu'après le remaniement ministériel et Duflot libéré, cette passion refait surface. En effet, Cécile Duflot envisagerait de profiter de l'absence de Ségolène Royal, nouvelle ministre de l'Environnement, pour passer ses vacances en Poitou-Charentes afin de participer à, Laurent ?
Fort Boyard, je suppose.
Je vois que vous êtes comme Cécile Duflot, Laurent, un fan de cette émission. Oui, mais ça, c'est Cécile Duflot. Vous êtes un fan de cette émission enregistrée dans le célèbre fort situé au large de La Rochelle. Alors, dans un échange de tweets, l'ex-locataire du ministère du Logement a dialogué avec le propriétaire du Fort Boyard, le père Fouras, qui a été le premier à gazouiller. « Chère Cécile Duflot, j'ai lu que vous étiez une de mes plus grandes admiratrices. Viendrez-vous me voir cet été ?»
Père Fouras, je confirme en rugissant. Si vous m'invitez, ce sera avec grand plaisir. J'ai un peu plus de temps pour moi désormais. Smiley.
Cécile Duflot, je vous envoie une invitation par pigeon voyageur au plus vite. Smiley, à très vite. Moralité, à ceux qui n'auraient pas compris le second degré, l'ex-ministre s'est senti obligé de répondre que tout cela était de l'humour. Quoi qu'il en soit, si Duflot débarque au large de La Rochelle cet été, c'est Noël Mamère, de plus en plus dépité, qui risque de réagir ainsi sur Twitter.
Hashtag. Je pense que les écologistes aujourd'hui sont dans une phase très difficile.
Merci. On se retrouve lundi.
Si vous le voulez bien.
C'était un vrai tweet.
Oui, un vrai tweet.
Véritablement.
Bah, c'est ce que relaient tous les médias, Huffington Post, Le Nouvel Observateur.
C'est dire si c'est vrai.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau à poil avec vous, Philippe Catherine. Vous signez votre 10e album, Magnum, à paraître lundi chez Barclay, un disque où il est question de dictateur, de solitude, de partage, mais aussi de grosses couilles, de Catherine de Médicis et de Dean Martin. Le son, cette fois, est plutôt italo-disco, produit par Sébastien. Qu'est-ce que ce genre-là, l'italo-disco, vous permet de dire dans la chanson ?
Je ne savais pas que c'était l'Italo Disco.
Ah ouais, je peux vous le confirmer.
Ah, vous me le confirmez?
Non, mais, moi, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre.
Non, mais à vrai dire, je n'ai jamais étiqueté ce que m'envoyaient les Sébastien. En tout cas, c'est une musique électro. Hein, c'est pas joué, hein, donc c'est séquencé. Ce qui permet, évidemment, quand il y a quelque chose d'un peu rigoureux, d'avoir un petit peu de fantaisie, de volupté. Pour ce qui est de mon interprétation, j'ai pu, disons, chanter plus tendrement.
Plus tendrement.
Plus tendrement, oui.
Mathieu.
Philippe Catherine, c'est encore une fois un disque de danse. Hein, c'est un peu le tournant que vous aviez pris avec Robot après tout. C'était presque il y a 10 ans déjà. Comment est-ce que vous regardez la pop plus anglaise, plus harmonique que vous faisiez auparavant ?
Oh bien, j'étais un garçon très réservé, rougissant, je le suis toujours d'ailleurs, mais j'avais coupé mon corps et ma tête. C'est-à-dire quand j'ai commencé la musique, seule ma tête agissait. J'ai raccordé ça au moment où de Robot après tout, où je me suis branché le corps avec la tête, ça a tout changé. Après, j'ai fait un spectacle avec Mathilde Monnier.
2008 Vallée, la chorégraphe Mathilde Monnier, oui.
Oui, absolument, qui m'a révélé à moi-même, en quelque sorte.
Je lisais dans un vieil entretien que le fait de passer au chant à partir seulement du 3e album, c'était pour vous le moyen de vous affranchir de la censure, c'était dans un entretien, et vous ajoutiez une volonté avouée de vous séparer d'une éducation catholique vendéenne moralisatrice. Le chant permettait tout ça ?
Oui, le chant, c'est un enfant, quand il naît, il pleure, il ne parle pas, et les larmes, les pleurs, c'est du chant. Et c'est retourner au fond à l'enfant sauvage que j'ai été, que j'ai oublié complètement, mais quand je chante, je retrouve un petit peu ça.
Jean-Luc Vernat, vous chantez aussi, on écoutera tout à l'heure un extrait. Il y a eu plusieurs groupes, hein, The Beauty and the Beat, ou encore Jean-Luc Vernat et ses Dum Dum Boys. Le premier groupe que vous aviez, c'était en 82, Le Grand Tunnel Mou, c'était le titre de ce groupe. Pas de savoir de quoi il s'agissait. Quelle était la musique que vous défendiez à l'époque avec ce groupe, Le Grand Tunnel Mou?
Le premier nom du groupe, c'était supposé être Anal Plus. Finalement, on a décidé de faire quelque chose de plus possible pour le public, public qu'on n'a jamais rencontré, puisque le groupe a duré 6 mois et on a fait 2 grands concerts dans la salle à manger de Louis-Frédéric Apostoli, celui avec qui j'avais ce duo et qui est maintenant un des deux musiciens du groupe Les Dupont, qui marche très bien dans la musique électro, ce qui est assez drôle. Voilà.
À vos débuts, vous aviez aussi un groupe, Philippe Catherine. Vous avez commencé en solitaire.
Non, je faisais des chansons avec mon voisin quand j'étais, qui s'appelle Bébel, que je salue au passage. On faisait des chansons tous les samedis sur des petites cassettes. On enregistrait peut-être 200 chansons comme ça, mais sans savoir ce que c'était que de faire une chanson. C'était ce qu'on appelle l'âge d'or.
Mathieu.
Alors, vous ne l'avez pas apporté ce soir, Philippe Catherine, parce qu'on va vous entendre dans un instant avec les musiciens, mais il y a une nouveauté sur ce disque, c'est le saxophone. Vous jouez du saxophone dans le disque, sur le titre ADN, mais de façon volontairement très, très maladroite, comme un débutant, comme un novice.
Mais c'est que je suis novice, c'est pas volontairement maladroit, c'est que je suis maladroit. J'ai découvert le saxophone, j'en ai joué 2 heures dans ma vie, mais ça m'a pas empêché de jouer sur le disque. C'est très agréable d'être novice, de découvrir quelque chose. Mais vous savez, le saxophone, c'est pas comme la trompette.
Oui,
la trompette, vous soufflez dedans pendant 3 mois, il n'y a toujours rien qui sort. Le saxophone, vous soufflez dedans 3 minutes, vous avez déjà un son. Et vous pouvez exprimer vos sentiments dans la demi-heure qui suit. Je vous conseille.
Est-ce que ça veut dire que la virtuosité, par exemple, vous a lassé à un moment, Philippe Catherine ?
Virtuosité
de musicien ?
Ah, j'ai jamais été un virtuose, non. Ah non, jamais.
Je cherche à l'être.
Ah non, non, du tout. Non, non, je virtuosité ne m'intéresse pas du tout. Enfin,
Par exemple, au niveau du chant, j'ai pu lire que, enfin, vous nous l'aviez dit la dernière fois qu'on s'était vu, que vous ne cherchiez pas forcément à progresser dans votre technique de chant. Oui. Pourquoi cette recherche de ne surtout pas progresser, de garder votre niveau? Parce que vous avez un chant et une diction très particulière.
Non, mais le problème, c'est que je progresse.
Malgré vous?
Oui, parce que quand on fait des concerts, on progresse. Et c'est à chaque fois un mini-regret, mais que j'essaye de rattraper autre part. C'est toujours une petite perte, quelque part.
Cette progression, vous la voyez à quel niveau, par exemple, dans votre façon de chanter?
Je chante peut-être plus...
Tendrement, moins, vous l'avez dit tout à l'heure.
Plus tendrement. Ouais. Et peut-être moins faux qu'avant. Et je perds quelque chose. Je gagne ailleurs, hein, bien sûr. Mais voilà, la maîtrise n'est pas toujours une bonne conseillère.
Jean-Luc Vernin, vous progressez dans le chant?
À mon niveau. À mon petit niveau. Plus je chante, plus on chante, mieux on chante. Voilà. Mais la posture de l'excellence, que ce soit dans le chant ou dans le dessin, ça a à voir surtout avec du sport et pas trop avec de l'art pour moi. Donc,
Tous les deux, vous avez refusé de prendre des cours de chant? Vous en avez pris, Philippe Catherine?
Jamais. Never, en anglais. Non, jamais.
Moi, si.
Vous en avez pris?
Mais j'ai pris un an de cours de chant lyrique. Eh oui.
Bon, on va vérifier tout ça. Philippe Catherine, vous allez retrouver les musiciens. Mathieu?
Aujourd'hui, c'est Christophe Disco Mink qui était là au clavier basse. On le reconnaît à sa coupe de cheveux.
Enfin, Christiane ça pour ceux
Prince,
qui sont ici.
Pour ceux qui sont ici au Palais de Tokyo.
C'est la radio qu'on fait, Mathieu.
C'est Christiane Prince qui est à la batterie. Bon, vous aurez deviné, Disco, le surnom, la coupe de cheveux. Jérôme Pérez est à la guitare. C'est Jean-Max Méry qui est au clavier. Et le titre, ce sera celui de Sexy Cool. Je précise que c'est la première fois qu'on vous entend en live avec ces musiciens, puisque ce disque n'est pas forcément destiné à être joué sur scène. Merci pour cette primeur.
Ici, en direct et en public, venus très nombreux au Palais de Tokyo à Paris.
Mais sexy, sexy, sexy. sexy, 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 comme une martine. Sexy, comme Dean, comme Dean Martin.
Catherine, en direct sur France Culture, ici au Palais de Tokyo. Sexy Cool, c'est donc un des titres de l'album Magnum qui sortira lundi prochain sous le label Riviera de chez Barclay.
D'abord un mot peut-être sur ce titre Magnum dans un teaser assez drôle qui circule sur Internet. Vous dites un nom, c'est une image, c'est un monde, un miroir et une mémoire. À quelle mémoire vous faites appel avec ce titre Magnum ? Pour moi, c'est un Mico.
C'est un ?
Mico.
C'est une autre marque, oui.
C'est vrai.
Non, mes préférés sont vraiment les Magnum, au niveau, bien sûr, glace. Hein. J'en consomme énormément.
Alors, quelle est la mémoire autour de ce titre ?
Ça me sécurise, Magnum me sécurise à un point. Je me sens comme dans un salon, comme quand j'étais petit, à vrai dire, que je regardais Magnum à la télé. C'était un petit peu ça. Magnum qui était un héros pour moi aussi, à un moment donné. Un héros vagabond. Il n'était jamais propriétaire. Oui, il empruntait les voitures. De son pote qui s'appelait... Bon, on ne s'en souvient plus.
Higgins.
Absolument. Ça a été passé chien, il n'avait rien.
Zeus et Apollon.
Comment ?
C'était les noms des chiens.
Ah, les chiens ! Quelle belle trouvaille.
Mythique.
Ah ouais.
Mythologique.
Il y a un changement dans l'écriture, Philippe Catherine. Dans le précédent, pour résumer, hein, vous exploitiez plus le rapport binaire à toi, à moi, remet, enlève, mort ou vivant, on, off. Ici, on va dire que vous concentrez votre écriture plus sur les effets de répétition. Hein, par exemple, dans Fait tourner, ce que je sais, c'est je sais qu'il faut faire tourner, ce que je sais, c'est je sais. Il y a aussi beaucoup d'anaphores, hein, c'est très à la mode. Il y a aussi dans Sexy Cool.
L'anaphore
chanson...
est à la mode.
Ah ben oui, moi, président de la République, moi, voilà, ça a été. Très popularisé par notre président.
J'ignorais.
Dans la chanson qu'on vient d'entendre, vous disiez « Je chante toujours la même chanson ». C'est quoi cette chanson ?
Ben, je chante toujours la même chanson. C'est une chanson, au fond, sur toute proportion gardée, mais enfin, sur autrui. C'est-à-dire, on est toujours esclave d'autrui et on est obligé de s'abandonner à cet esclavagisme. Et c'est un peu ce thème-là que j'ai voulu aborder dans cette chanson. Après, ça devient autre chose. J'espère bien, d'ailleurs, que ça reste pas là. Mais ça a été la base pour cette chanson. L'esclavagisme amoureux.
Le disque Magnum est aussi accompagné d'un film qui sera diffusé le 12 avril prochain sur Canal+. Il s'appelle Catherine Magnum, dans la veine des films de Gustave Kerven et Benoît Delépine, avec un certain surréalisme sur une île déserte en Thaïlande où vous échouez avec une cargaison de glace Magnum. On y croise des poussins géants et même Ariel Dombal qui vous sauve d'une attaque homophobe. Extrait.
Le rendez-vous, la chronique.
Non, il ne l'a pas, donc eh bien voilà. Donc elle vous sauve d'une attaque homophobe, parle d'identité. Et plus loin d'ailleurs, elle raconte quelque chose d'assez intéressant. Elle vous raconte une anecdote de votre père dans une voiture. Oui. Il vous aurait dit que dans chaque voiture... Non. Elle est dans une voiture et il vous aurait dit que oui. Dans chaque voiture familiale, il y a un fou. Chez vous, c'était qui ?
Non, mais c'est-à-dire qu'on était dans... Oui, je me souviens bien de ce moment-là de ma vie qui était un tournant. j'étais dans la voiture avec mon père. Il conduisait, bien sûr, j'avais quoi, 13 ans. Et il m'a dit, tu vois, mon fils, dans chaque voiture, il y a un fou. Chaque voiture que l'on croise contient un fou. Et ça m'avait complètement rendu fou, parce que nous-mêmes, on était dans une voiture. Alors, donc j'ai compris que le monde, oui, était fou. Et ça s'est bien confirmé depuis, croyez-moi.
Mathieu.
Est-ce qu'on essaie d'écouter l'extrait de la voix d'Ariel Dombal ?
On y va.
On l'écoute.
Oh Philippe, ça me fait plaisir. Non, mais c'est un hasard, mais je ne vous avais pas reconnu. Vous n'êtes plus tout à fait le même, hein ? En même temps, quelle chance hein, de plus être le même. Vouloir être soi-même, c'est aberrant, c'est une horreur. En plus, c'est la meilleure manière de ne pas y arriver. Parce que c'est tuer le poussin dans l'œuf. Vous êtes de mon avis. Vouloir être soi-même, on ne peut pas être au balcon et se regarder passer. Ah, ça c'est sûr. Non, mais c'est un slogan maintenant. Soyez vous-même. Be yourself. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Attends, regardez. Ça fait plaisir. Être soi-même. Non. Non. Fini. Fini les identités. Fini.
S'il y a un fou dans chaque voiture... On a vu qui était le fou dans cette voiture. Mathieu.
Il est beaucoup question dans ce disque.
Je crois que vous vouliez réagir sur ce que l'on vient d'entendre.
Oui,
sinon, ça ne sert à rien.
Dans l'extrait qu'on vient très d'entendre, bien. Comme dans le disque, il y a beaucoup question de genre, en fait, de l'identité, de qui on est. Vous écrivez, par exemple, sa papa et son maman dans le titre ADN. Vous portez aussi la robe de Julie Depardieu. Vous, le Vendéen, comment est-ce que vous avez vécu les événements de la Manif pour tous, Philippe Catherine ?
Tortueux comme esprit. Oui.
Bah écoutez, j'étais pas, mais j'ai vu des images à la télévision qui m'ont terrifié tout simplement. J'ai vu des choses atroces, notamment des boucliers enfants. C'est la première fois que je voyais ça dans des poussettes, des gens qui devant des CRS, dans des conditions vraiment d'extrême danger, prenaient leurs propres enfants comme des boucliers et qui disaient aux télévisions « Mais comment les homos peuvent élever des enfants ?» qui donnaient des leçons. Alors j'ai vu des choses vraiment terribles. Enfin, tout le monde les a vues d'ailleurs. Et oui, c'était terrifiant.
Jean-Luc Vernin, vous les avez vus aussi ?
Je les ai vus l'année de cette manif, c'était l'année dernière. Mmh. J'ai sorti 5 fois mon cran d'arrêt dans la rue pour me défendre. Donc je les ai vus de près et ils m'ont entendu de près.
Les enfants ?
Les parents.
Dernière question pour vous, Philippe Catherine, puisqu'on va parler de dessin dans quelques instants. Vous avez rencontré Salvador Dali quand vous étiez enfant, déjà. C'était sur une plage à Collioure, un titre merveilleux de chanson. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre ? Pour qu'on retrouve ça dans les entretiens.
Oui, c'était une rencontre mais très furtive. Je me baignais. Il devait habiter pas loin parce que c'est Cadaqués qui est pas très loin. Et il était de passage. Et puis moi, je sortais du bain, encore ruisselant, et je vois cet homme arriver, très impressionnant, et qui m'a fait un petit clin d'œil, qui un petit sourire, et qui m'a dessiné quelque chose que j'ai perdu après.
Ah, c'est vrai. Vous avez dessiné quelque chose.
Il m'a dessiné un petit ange.
C'est magnifique.
Il m'a dit, tu es un petit ange. J'étais content.
Et c'était
vrai ? Je l'ai cru, en plus.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Ouais.
C'était vrai.
Le rendez-vous, la chronique.
La chronique ce soir, comme tous les vendredis, Thomas Clair, sauf vendredi dernier, il n'était pas là, il nous a boudé. Et il revient aujourd'hui avec Dada Art.
Oui, j'ai pris Dada Mensuel, qui est la première revue d'art. Pourquoi la première, alors qu'elle a été fondée en 1991 ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une revue d'art pour enfants. Première ne doit pas s'entendre du côté de l'émetteur, mais du destinataire. Exactement comme on peut dire que nos premières lectures ne sont ni Molière, ni François de Clauset, mais Martine ou Babar. Alors, pourquoi une revue d'art pour enfants ? Interrogeait jadis l'éditeur. Jusqu'à présent, aucune revue d'art ne s'était adressée aux enfants. Pourtant, l'invitation à l'art devrait commencer par eux. Fin de citation. Je ne peux que souscrire à ces propos, moi qui n'ai pas d'enfant, mais qui ai su aussi parfois en rester un. Eh bien, Dada est un titre tout trouvé, une expression qui ne voulait rien dire jusqu'en 1916, mais qui signifie beaucoup, entre le galop de cheval et l'avant-garde, oui oui en russe, ou dans la bibliothèque rose. Alors ce numéro 190, eh bien, témoigne de l'insolente santé du magazine, les nains aussi ont commencé petit, ce n'est pourtant pas un numéro spécial Toulouse-Lautrec, mais HCB, entendez, Henri Cartier-Bresson, l'œil du siècle qui oblige actuellement les gens à faire la queue au centre Pompidou, à la différence du palais de Tokyo. De quoi est fait Dada? Eh bien, d'un triple tir, un dossier intitulé « Chant contre chant » et consacré donc à Henri Cartier-Bresson, une rubrique « Atelier sur le vif » et un troisième acte « Artualité ». Alors c'est une mise en page d'une sobriété exemplaire, le dossier Cartier-Bresson est également exemplaire, des textes courts mais intelligents, un abécédaire tout à fait bien pensé, une iconographie subtilement choisie, par exemple la remarquable photo d'enfant africain pris en 1931 en Côte d'Ivoire, totalement dépourvue de pittoresque, qui plaira aux petits. Elle est à elle seule d'ailleurs une réponse à l'exotisme de Steve McCurry, auteur de l'insupportable jeune réfugié afghan et membre de l'agence Magnum, mais on en parlait tout à l'heure, que Cartier-Bresson avait fondé en 1947, avant de s'en détacher à cause des gens qui déshonorent la profession. Donc, Atelier sur le vif eh bien, occupe 6 pages, mais propose quelques exercices de style photographique, dans un souci pédagogique qui n'est jamais démagogique. Remarquez que ces deux adjectifs se menacent réciproquement, ils sont tous les deux quadrisyllabiques d'ailleurs, qui lui-même est pentasyllabique. Enfin, Artualité expose une série d'événements sous forme de vignettes éducatives, comme ce jeu énigme sur la croûte du peintre montmartrois Henri Gervex, une soirée au Pré-Catelan. On instille ainsi habilement dans l'esprit des gnomes la différence entre le bon art et le mauvais art. C'est très bien, je trouve. Donc, à noter la très réussie bande dessinée Du côté des mondains de Zeina Abirached, qui, dans un style assez proche des bois gravés de Félix Vallotton, raconte, si l'on peut dire, les destins croisés de personnalités proustiennes dans une élégance qui ne l'est pas moins. Dada est une revue intelligente et bien faite, qui ne cède à aucune concession infantilisante, notamment dans la mise en page. Alors peut-être elle manque juste un peu de ce dadaïsme que l'on prête volontiers aux gens de petite taille temporaire. On peut les aider. Allez à Pantin, près de la galerie Tadeusz Ropak, 69 avenue du Général Leclerc, 93 500. Juste avant d'arriver, prenez la rue Cartier-Bresson sur la gauche et lisez les indications de la plaque de rue. Cartier-Bresson, conseiller municipal bonapartiste, ingénieur textile. C'était le père de monsieur. 7,90 €, c'est un peu cher, mais que ne ferait-on pas pour les gosses ?
19-20, le rendez-vous palais de Tokyo.
Plateau Par Amour avec vous, Jean-Luc Vernat, artiste, plasticien, danseur, actrice, chanteur, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de concert au Centre Pompidou en juillet 2013. Paraît aujourd'hui votre première monographie chez Flammarion, l'occasion de revenir sur un parcours post-punk qui commence dans les années 80. Une œuvre qui passe par la mise en scène de votre corps nu et tatoué, qui interprète des poses d'icônes de l'histoire de l'art et du rock. Une œuvre qui passe aussi par les films de Brice Delsperger. J'arriverai jamais à le dire.
Delsperger.
Dans lesquels vous interprétez tous les personnages pour des remakes de films de Kubrick ou de Palma, et le tout tenu, comme vous le dites, par le dessin qui est la véritable colonne vertébrale de votre œuvre, des dessins de créatures, des silènes, des squelettes, des fées, des mères monstrueuses, des furies, des démons à phallus ou des faunes chiant des fleurs. Vous êtes devenu artiste parce que c'était la seule alternative intéressante pour trouver, dites-vous, une place dans la société. Quelle place était la vôtre avant cela ?
On ne va pas revenir une fois de plus sur mon parcours. Oui, j'ai été prostituée.
Ce n'était pas véritablement la réponse que j'escomptais, mais bon, c'est la bonne.
C'est la seule.
Et donc, à quel moment décide-t-on d'être artiste et comment se fait le passage ?
Quand on fait la somme de ses maigres talents et qu'on essaye d'en faire une vie, quand c'est le dessin qui tombe, le dessin d'ailleurs à l'époque comme... dépit de la danse, puisque j'avais d'abord fait le deuil d'être danseur, du coup, on se met là-dedans et on voit si on peut. Et jusqu'à maintenant, j'ai pu.
Quels étaient les premiers dessins que vous avez réalisés à cette époque-là ?
Les premiers dessins que j'ai réalisés, un Elvis en Madone de guerre, un petit oiseau mort sur le dos. Il y avait déjà des choses...
Qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le vocabulaire.
Moi, je tisse mon fil. C'est mon fil. Alors, c'est un fil qui grossit, qui se tresse d'autres fils, mais c'est mon fil.
Manu Farine.
Alors Jean-Luc Vernat, le dessin, c'est vraiment ce qui tient l'ensemble, mais qui passe aussi par le corps, par le vôtre en l'occurrence, souvent. De lui, donc de ce corps, vous dites que c'est surtout un champ de bataille, qu'il faut lutter contre une génétique difficile, car vous êtes un gros monsieur, c'est vous qui le dites quand même. Il faut passer son temps à le raboter, le muscler, le galber, l'étendre, le redresser, le décorer, le supporter, le rendre souple à l'enseignement des gens. Qu'est-ce que cette pratique du dessin, qui tient le tout, vous aura appris sur votre propre corps, Jean-Luc Vernat ?
Le dessin, ça m'apprend sur mon propre corps, comme sur les différentes postures qu'on peut adopter par rapport à la société. Comme le fait d'être professeur, parce que je suis professeur, là en ce moment je suis professeur à l'école des beaux-arts de Poitiers, à l'ESI, tout est question de correction. Voilà, il faut corriger, il faut toujours corriger, corriger, corriger.
Le terme peut être entendu de tous les côtés.
Non, c'est vrai que quand j'ai dit ça à Catherine Robbe-Grillet, elle
a... Ah ben, tu parles.
Immédiatement, elle m'a dit, oui,
oui
c'est vrai,
bien sûr,
il paraît que je ne suis bonne qu'à ça.
À corriger.
Et d'ailleurs, elle m'a dit, est-ce que vous voulez essayer ? Et j'ai tendu une... C'est la première fois que je la voyais, donc je me suis dit, chère dame, je voyais cette femme de petite taille que je ne connaissais pas, sauf par rapport à ses écrits. Alors, je lui ai gentiment tendu ma joue, qu'elle a sonné avec une petite main de marbre.
Maîtresse SM, hein, Catherine Robbe-Grillet.
Oui, 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 et aussi interprète pour Gisèle Vienne. C'est comme ça que je l'ai connue.
Quel était le rapport au corps dans votre propre famille, pour que ce soit devenu vraiment le sujet de votre travail?
Mon père était culturiste. Ma mère était une femme qui a été assez brièvement belle dans sa vie et qui en a profité pour... essayer beaucoup de choses pour avoir de l'avancement, et à chaque fois elle perdait son travail, donc je pense qu'elle n'était pas très douée dans sa partie.
Philippe Catherine, qu'est-ce que ça a changé, le fait de travailler ce corps, justement je suis encore bouleversé par la réponse qui vient d'être donnée, je crois qu'elle résonne encore dans ma tête, j'essaie de me figurer toute cette histoire familiale. Qu'est-ce que ça a permis chez vous, le fait de danser avec Mathilde Monnier? Parce que tous les deux, vous avez une carrière de danseur, même si vous, c'était en effet, Jean-Luc Vernat, vous disiez la passion du départ, mais aujourd'hui, vous l'avez retrouvée puisque vous travaillez avec Gisèle Vienne. Vous, qu'est-ce que ça a libéré chez vous, le fait de travailler donc 2008 Valley avec Mathilde Monnier, chorégraphe?
Ben, il s'agissait... De voir ça parce qu'en musique moi j'ai jamais travaillé comme ça, les gens s'assiedent, discutent, il y a beaucoup de discussions dans la danse, en tout cas je l'ai observé chez Mathilde, les gens s'allongent sur des balles de tennis, ça n'a rien à voir avec ce que je connais en répétition, etc. Donc beaucoup de discussions, mais ça m'a complètement passionné parce que on est rentré au fond dans l'élaboration d'une fiction, c'était une histoire qui était racontée sur une heure, et c'était pour moi tout nouveau. En même temps, je me sentais en danger, donc en sécurité d'une certaine façon, et parce que j'aime bien me sentir comme ça, en danger sur des choses. Et puis j'avais affaire aussi à des danseurs excellents, et moi j'étais juste quelqu'un qui danse dans son salon, et donc je devais quand même franchir le cap. Ça a été quand même une épreuve. D'ailleurs, le spectacle, si vous en souvenez, raconte un petit peu ça, cette épreuve et l'horizon qu'il y a derrière.
Est-ce que la pratique de la danse qui est arrivée sur le tard chez vous, Jean-Luc Vernat, avec Gisèle Vienne, ça a changé quelque chose, ça a modifié quelque chose dans votre propre travail plus tard sur le corps, mais même dans le dessin?
Dans le dessin, mes dessins, de toute façon, ils dansent depuis le début, donc ils dansent pareil. Non, par rapport à mon corps, oui, puisque je fonctionne au miroir pour le dessin.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je me... sans y faire de parallèle sexuel, mais quand j'ai un dessin à faire par rapport à une photo et que la photo est incomplète, je me finis au miroir. Et donc, généralement, je suis confronté à mon image. Et la danse, c'est être confronté à ses sensations. Donc là, ça a été tout autre. Voilà. Et quant à ma façon d'être parachuté dans cet univers de la danse, ça a été exactement la même chose que j'ai ressenti, la même chose que Philippe Catherine. J'étais juste dans un autre monde qui m'a apporté, en plus, par rapport au monde de l'art contemporain, un oxygène irremplaçable.
C'est-à-dire, pourquoi ? Parce vous vous sentiez complètement à l'étroit dans le monde de l'art contemporain ?
Pas à l'étroit, je ne suis pas aussi grand, ni aussi gros, ni aussi lourd.
Mais vous êtes développé.
Je suis, n'est-ce pas ? J'espère que les auditeurs me voient.
On fera des photos.
Merci. C'est du travail quand même. Le truc, c'est que quand on est prisonnier d'un seul... Je pense que quand on est prisonnier d'un seul endroit de la société, dans un seul corps de métier, on risque la sclérose. Je ne dis pas que les gens sont obligatoirement sclérosés, ni que j'étais en passe de le devenir, ou que je l'étais déjà en partie. Mais la musique, à mon échelle, la danse, à mon échelle... l'acting, puisque là, il y a aussi un... Parce que je ne vous ai pas dit, il y a un film qui va sortir, un film de cinéma, je suis dedans. C'est fou, non ? Alors, après avoir été actrice pour Brice Delsperger, je suis acteur pour Patrick Chia. Donc, je suis...
Qui avait fait Domaine avec...
Voilà, et là, qui fait Boys Like Us avec Jonathan Capdevielle, notamment, qui est mon grand ami, et qui est de Gisèle Vienne aussi, donc voilà.
Manu Farine.
Donc c'est du travail, ce corps, on l'a compris, hein, c'est vous qui le dites, mais vous dites aussi que la façon d'offrir justement ce corps aux autres, dans le cadre de votre travail, vous pose un problème à la fois éthique et politique. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Luc Vernat ?
C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le ventre temporairement plat et qu'on a des muscles, etc., qu'il faut... Enfin, je veux pas être un artiste gay qui fait de l'art gay. Et ça, c'est toujours possible quand on s'offre nu dans des poses qui peuvent être qui sont séduisantes ou, enfin, ou monstrueuses, ou pour d'autres d'ailleurs. Mais si, voilà, se servir de son corps nu en tant qu'homme, en faisant du nu frontal, en exhibant des choses que certains disent pas à montrer, disent qu'il ne faut pas les montrer, on peut très vite basculer dans la pose de soi-même en disant « Regardez comme c'est beau un homme », alors que c'est surtout pas mon sujet et que je ne fais pas de l'art gay. D'ailleurs, il n'y a pas d'art gay.
Philippe Catherine, la première fois que je vous ai vu nu, c'était sur une pochette de... Rassurez-vous, c'était sur Internet. Non, c'était sur une pochette d'album. C'était pour L'homme à trois mains, je crois.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il y avait... motiver ce passage à la nudité frontale à ce moment-là ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le film qu'on verra le 12 avril, on peut vous voir les couilles à l'air absolument pendant tout le film. Mais à cette époque-là, il y a plutôt pas mal de temps. Qu'est-ce qui avait fait que vous passiez comme ça pour cette couverture, pour cette pochette ?
Je pense que je voulais me montrer plus que nu, je voulais me montrer désarmé. Puisque un homme nu, on voit tout de suite qu'il n'a pas d'armes. Et c'est ça qui me touche tout de suite. Oui, bon, ça dépend qui.
Oui, quel est ce doute que dont vous faisiez l'écho ?
Aucun, je ne voulais rien dire.
Un homme nu peut être armé, donc.
Et bien armé.
Très bien, Manu Farine, j'en étais sûr, je pensais que c'était ça.
Juste peut-être, Jean-Luc Vernat, pour qu'on comprenne un petit peu votre dessin, hein, parce que côté dessin, vous avez mis en place une méthode assez particulière qui consiste à transférer vos dessins par calque ou photocopie sur papier ancien, papier Japon, sur tissu, sur des murs, et ensuite de les reprendre, de les rehausser au fard, au colle, à la paillette, parfois à la pierre noire. Donc résultat, il y a comme une sorte d'effet d'effacement dans vos dessins. Qu'est-ce qu'il s'agit de perdre avec ce procédé-là de transfert ?
Il faut surtout perdre la vivacité du dessin qu'on montre au public en disant, quand on fait du dessin comme moi, d'anatomie et un peu, on dira ceux qui ne l'aiment pas disent que c'est 19e misant ou que c'est un peu genre néoclassique ou je ne sais quoi et de surtout pas justement être là dans la posture de dire regardez comme c'est bien fait, regardez le fa presto, regardez cette merveilleuse vivacité du poignet, ouais, voilà. Donc tout ça, il faut le virer, parce que ça n'est pas le sujet du travail. Le travail du dessin, ça n'est pas la sportivité du savoir-faire. Moi, j'aime la perte, j'aime ce qui subsiste. C'est comme un visage extrêmement fardé et perruqué, un visage d'homme ou de femme. Hein. Je ne parle pas forcément de mes rôles de travesti. Mais ce qui est beau, c'est ce qui en ressort, ce qui résiste à tout ça. Et moi, ce que j'aime, c'est ce qui résiste à tout. C'est ce lynchage systématique de
du savoir-faire, parce que la sportivité du dessin, je trouve ça bête, obscène, obsolète, etc.
Philippe Catherine, un dernier mot avant de vous retrouver chanter pour la deuxième session de l'émission. Vous pratiquez aussi le dessin régulièrement. Il y a eu plusieurs albums que vous avez fait paraître. Il y avait même une exposition. Qu'est-ce que vous permet le dessin pour vous ? Fixer quoi ? Des rêves ? Fixer des fantasmes ?
Ben, c'est aussi d'être ailleurs, hein, surtout. C'est parce que, ben, comme disait Jean-Luc, c'est vrai qu'on risque la sclérose en restant dans la même activité. Moi, quand je fais du dessin, ça me régénère. Alors, j'ai l'impression, quand je reprends après la guitare ou ça, d'être un autre. Et c'est en voyageant ainsi qu'on peut y parvenir. C'est ça qui me plaît là-dedans.
Le dernier dessin que vous ayez fait, c'est quoi ?
Pardon ?
Le dernier dessin que vous ayez fait, c'est quoi ?
Je m'en souviens pas. Pourquoi vous me posez cette question ?
Pour savoir.
Ah ouais.
C'est le but d'une question.
Ah, vous voulez savoir ?
Oui, je veux savoir.
C'est le but d'une question. Écoutez, j'ai dû dessiner un de mes camarades dans une baignoire.
Parfait.
Oui, je me souviens.
Ah d'accord, vous vous souvenez.
Oui, je me souviens maintenant. Oui. On voit que sa tête. C'est une baignoire remplie. On voit que sa tête. C'est un dessin magnifique que vous ne verrez jamais.
Bien entendu. Mathieu.
Philippe Catherine, je vous laisse retrouver les musiciens. C'est toujours Christophe Discomink qui est au clavier basse, Christiane Prince à la batterie, Jérôme Pérez, lui, à la guitare, et Jean-Max Méry est au clavier. Et cette fois-ci, c'est pas tout seul. En direct sur France Culture, ici, depuis le Palais de Tokyo, quand vous voulez.
Merci Philippe Catherine, en direct sur France Culture, ici depuis le Palais de Tokyo. C'est donc une avant-première en direct pour cet album qui paraîtra, Magnum, donc qui paraîtra lundi prochain sous le label Riviera Barclay. Merci à vous.
En conclusion, la phrase charnière de ce disque.
Ah, j'ai jamais été un virtuose, non. Bon, le problème, c'est que je progresse. Mais la posture de l'excellence, ça a à voir surtout avec du sport et pas trop avec de l'art pour moi.
Eh oui.
Merci à nos invités. Philippe Catherine, Magnum, l'album est à paraître chez Barclay donc lundi prochain. Et le film Magnum sera diffusé le 12 avril sur Canal+. Jean-Luc Vernat, votre monographie et non pas votre mammographie, comme vous me l'aviez dit tout à l'heure, est paru aux éditions Flammarion. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne.
C'est super, il faudra attendre lundi pour que ce soit demain avec une émission toute première fois ciné-roman avec Emmanuel Richard et Jean Denisot. La session, ce sera Mathieu
Forget Not.
Exactement, le quartet jazz. Et vendredi prochain, ici même, rendez-vous au Palais Tokyo à 19h avec Dominique Besnéard et Camille Chamou. La désannonce, c'est...
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission en direct et en public à réécouter en ligne ou à podcaster. Bien sûr, une émission préparée ce soir par Manu Farine, Benoît Lagane, Xavier Martinet, Aïssatou Ndoye, Marie Pio et Mathieu Conquet. À la prise de son, Fabien Gosset, Gérard Cognier et Alexandre Martin, chargé de production. Guillaume Rialan à la réalisation, Thomas Beau.
Je remercie bien sûr toute l'équipe du Palais de Tokyo pour leur accueil. Le public venu nombreux nous supporter, à tous les sens du terme, et particulièrement l'équipe technique ce soir qui a permis l'installation de la session de Philippe Catherine. Il est 19h54 minutes. Vous écoutez France Culture, c'est bien.